Bonsoir à tous. On est en petit comité, c'est le mois de février, peut-être qui est un peu, voilà, au cœur de l'hiver, au milieu du guet, comme je disais. Donc, pourtant, les textes de ce soir sont très riches. Hein. C'est presque une sorte de florilège, une sorte de best-of de l'évangile de Luc. Évangile de Luc, vous savez, qui est le plus littéraire, un des plus théologiques, et qui forme avec les Actes des Apôtres un énorme livre, en fait. Déjà, l'évangile de Luc est beaucoup plus long que les autres, mais en plus, si on y ajoute les Actes, évidemment, on a un volume, on est dans la littérature religieuse du 1er siècle, dans ce que ça a de plus prestigieux. Luc, on ne sait pas bien qui c'est. On l'assimile souvent à ce personnage qui apparaît dans l'Épître à Philémon et dans la deuxième à Timothée, puis dans Colossiens aussi, ce médecin grec dont on ne sait pas, à vrai dire, s'il était juif ou s'il était craignant Dieu. Probablement c'est un incirconcis, c'est quelqu'un qui vient de la gentilité, c'est-à-dire du paganisme, mais on n'en sait pas beaucoup plus, si ce n'est qu'il maîtrise très bien le grec de son temps, avec une tendance même à pasticher le grec biblique, le grec des Septante. Donc il a cette capacité de pasticher, ce qui est le signe d'un bon écrivain. Hein, le discours de Paul sur l'Agora, par exemple, ou les récits de l'enfance, ou la prise de parole d'Étienne. On voit bien qu'il a une capacité à jouer avec les registres littéraires que n'a pas Marc, par exemple. Alors, je pensais à cette parole de la Bible que reprend d'ailleurs Jésus dans un récit qu'on va entendre bientôt, puisque nos églises entrent en carême la semaine prochaine, au moment de l'épisode des tentations de Jésus. La première tentation, l'homme ne vit pas seulement de pain. Nous avons choisi comme axe cette année la nourriture, mais avec quand même cet horizon que l'homme ne vit pas seulement de pain, et que bien sûr, la satisfaction des besoins élémentaires est fondamentale pour toute vie humaine, mais la vie humaine, l'humanisation de l'homme, ne se satisfait pas de cet assouvissement élémentaire. Et donc, les repas dans l'Évangile sont aussi un lieu de manifestation d'autre chose que la nourriture elle-même, que le rassasiement ou que la satiété elle-même. Donc c'est un peu ce qu'on va voir. Donc la parole, la relation, la présence du Christ aux personnes qu'il rencontre, cette manière aussi de les toucher ou de se laisser toucher par eux ou de leur raconter des histoires, voilà qui est aussi une forme de nourriture. Donc bienvenue à Saint-Eustache pour cette traversée de ces grands textes lucaniens, comme on dit.
Oui, donc bonsoir Jérôme et bonsoir à vous tous. Alors oui, je crois que Luc, tu parlais de Luc, du personnage, il y a quelque chose qui est assez touchant, je trouve, c'est qu'au milieu des Actes des Apôtres, le début, il parle, il raconte l'histoire, et puis au milieu, tout d'un coup, il se met à parler à la première personne. Et ça, c'est quand même assez touchant, c'est-à-dire qu'on le voit tout d'un coup... Je veux dire, parler comme un témoin direct, mais ça montre aussi, à l'envers, que toute la partie vie de Jésus, et même le début, de l'Église, il était à ce moment-là absent, finalement. Il en a entendu parler, il s'est bien renseigné. Et c'est vrai que pour se renseigner, il s'est bien renseigné. Il y a quelques immenses épisodes bibliques qui sont, effectivement, que l'on doit... à ce témoignage de Luc. Alors, ne serait-ce que la parabole des deux fils dans Luc 15, c'est quand même quelque chose d'immense. Il y a d'autres choses immenses comme la parabole du bon samaritain, incroyable parabole aussi de Jésus. Et puis il y a d'autres passages qui sont très importants, comme effectivement Marthe et Marie, la pécheresse pardonnée chez Simon. Zachée est un personnage incontournable, jolie petite histoire. Enfin bref, oui, c'est un florilège. Alors on voit aussi, et c'est pour ça qu'on les a choisis, c'est que Jésus passe son temps à manger, en fait. À être invité et à aller manger chez les gens. Et ça, je crois que déjà, c'est assez touchant. Ce qui est assez aussi le reflet de cette façon d'être, hein, c'est le père du fils prodigue, il dit « Mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. » C'est tout un programme pour Pâques, quand même, effectivement. Et donc, il y a une invitation à ne pas être triste, mais au contraire, à faire la fête et à manger, quoi. Alors, bien entendu, c'est une idée, c'est une notion, comme le disait Jérôme, aussi spirituelle, c'est-à-dire manger ce qui est bon dans ce que le Christ apporte, ce que les autres nous apportent aussi, s'en nourrir. Mais je crois qu'il faut le prendre aussi au premier degré, c'est-à-dire que on peut se réjouir, on peut même se réjouir par le plaisir des sens. Et c'est vrai que la nourriture a quelque chose de quand même spécial, malgré tout. Quand on partage un repas avec quelqu'un, on partage quelque chose d'assez profond. On partage le fait d'être des animaux, de communier ensemble à cette animalité, finalement. Et il y a quelque chose quand même, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et ça, je crois qu'effectivement, c'est quand même intéressant de noter que nous ne sommes pas de purs esprits, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de pain aussi, et qu'on ne peut pas dire l'anthropologie, c'est-à-dire la conception que nous aurions, que nous pouvons avoir de la vie, de la beauté de la vie, ce n'est pas une vie spirituelle, c'est une vie animale et spirituelle, avec les deux dimensions qui sont réconciliées, et avec le spirituel au-dessus, bien sûr, mais quand même avec cette dimension qui prend en compte aussi le corps. Et il y a pour beaucoup de choses, c'est important. Alors bien sûr, on le verra la prochaine fois, je crois, c'est pour la communion, hein, ce geste que nous avons en Église, de ce repas finalement, à la table du Seigneur, on dit, bon, on verra un peu ce qu'on peut entendre par là une autre fois, mais même, j'allais dire, de bien des choses, par exemple le mariage. Dieu n'attend pas qu'on fasse une cérémonie de mariage pour bénir un couple de gens qui s'aiment et qui s'engagent, qui y mettent leur cœur. Alors à quoi ça sert de faire une sorte de cérémonie solennelle, machin ? Ben en fait, ça sert pas à convaincre Dieu. Mais ça sert parce que on n'est pas de purs esprits, et même si les deux époux y ont mis tout leur cœur et se sont dit oui dans l'intimité, les yeux dans les yeux, c'est pas tout à fait la même chose que de prendre le temps, de prendre les corps, de prendre les familles pour se rassembler en un lieu et puis de faire finalement une mise en cérémonie de cet engagement. Parce que le corps y est impliqué et que par conséquent, eh bien, ces engagements sont mieux gravés. C'est le cas de beaucoup de gestes symboliques. Par exemple, on offre un cadeau à quelqu'un. C'est peut être très très symbolique, mais c'est vrai que là, ben le cadeau, il est pas l'amour qu'on veut donner, qu'on veut dire, l'amitié, la reconnaissance, la gratitude, que sais-je, elle n'est pas simplement des mots, pas simplement un cœur, elle est aussi un geste, un objet. Et vous voyez, je crois que la dimension du corps est très importante et qu'il faut, j'allais dire, les deux vont bien ensemble, quoi. Et c'est pour ça, à mon avis, que Jésus passe son temps à aller chez les gens, à manger avec eux, à se laisser recevoir, parce que il s'y dit quelque chose d'une commune humanité, d'une commune même animalité. Sa parole s'est faite chair, c'est bien ça. Il se dit aussi quelque chose d'une anthropologie, et puis il se dit quelque chose d'un amour d'un Emmanuel, c'est-à-dire d'un amour qui prend pas de haut les humains, mais qui les rejoint dans la vie réelle. Et ça, je crois, oui, cette incarnation se dit particulièrement bien avec ce Jésus qui est à table. Alors on voit dans ce petit florilège, d'abord avec les trois premiers, qu'il est chez des amis, chez Marthe et Marie, et Lazare, qui est le frère. Donc c'est très familier finalement, ça, c'est le Jésus qui se repose, c'est déjà quand même incroyable, qui se repose, qui mange. Il y a ses disciples qui sont là et qui se reposent aussi. Ensuite, chez Simon, il est chez quelqu'un de peu sympathique, finalement. qui s'intéresse à Jésus, mais qui en même temps le reçoit pour le jauger, et même pour le juger au milieu. Donc il a un début de foi, mais c'est quand même peu sympathique comme démarche. Et ben, Jésus ne crache pas dessus, bien sûr, il mange. Chez Zachée, c'est chez un riche voleur finalement, qui se repentit de son passé. Et là, c'est Jésus qui s'invite chez lui, en fait. Et donc, ça dit aussi quelque chose du pardon et de la grâce, comme d'ailleurs chez Simon, hein, le trop religieux. Alors, chez Zachée, c'était chez le pas assez religieux, finalement. Donc, vous voyez, il y en a pour tout le monde. Et puis ensuite, avec la parabole des deux fils, eh bien, il y a vraiment cette idée que c'est Dieu lui-même, dans un sens, qui fait la fête et qui nous invite à faire la fête avec lui pour accueillir ou espérer notre conversion, c'est-à-dire notre foi, et qu'on aille manger avec lui. Voilà, mais peut-être il faut prendre le premier...
Mais non, je vais juste reprendre un peu ce que tu dis, parce que c'est essentiel. C'est très très beau cette idée que le repas est un acte spirituel, un acte religieux. C'est même très chrétien, au sens, Peggy n'a cessé de le dire, hein. Que la tendance, et Bernanos aussi, hein, la tendance du christianisme ou même des monothéismes, c'est la désincarnation quelquefois, c'est toujours ce qui menace. Et parce que finalement, une religion de l'incarnation, ça contredit un peu notre snobisme spirituel qui voudrait quelque chose d'un peu éthéré, un peu, pas forcément cérébral, mais un peu raréfié, un peu, voilà, parce qu'on est déjà englué tellement dans la matérialité, etc. Mais précisément parce qu'on ne prend pas le temps, peut-être, de vivre cette matérialité autrement que de façon aliénante, asphyxiante, parce qu'elle nous entrave, etc. Et donc, on a toujours ce rêve un peu de la philosophie grecque de s'affranchir du matériel. Et ce n'est pas ça, la bonne nouvelle, effectivement. L'Évangile, c'est aussi... Que le repas pris entre amis, et la résurrection d'ailleurs, on le voit, il y a le repas, il y a le poisson grillé, on sent presque l'odeur sur la plage, c'est très, très étonnant, pour peu qu'on aime les petits ports méditerranéens, etc., on voit très bien cette atmosphère. Et l'idée que le repas est un acte finalement religieux ou spirituel ou que sais-je, ça c'est essentiel, c'est assez à la mode d'ailleurs aujourd'hui. Vous savez, il y a ce médecin, c'est Christophe André, non, qui est psychiatre, qui fait beaucoup de petits livres sur prendre conscience. Vous savez, dans les rayons de développement personnel, on voit beaucoup ce type de livres. Voilà, c'est un peu la première gorgée de bière de Delerme aussi, c'est-à-dire qu'il faut réveiller les papilles, les sens qui sont endormis, prendre conscience de chaque mouvement, chaque moment. Alors quelquefois c'est un peu païen quand même, il faut bien le dire, mais c'est parce que maintenant je vois mes collègues qui font des exercices en salle des profs de méditation, donc ils savourent, qui laissent l'air entrer dans leurs narines, et chaque cellule pétille de bonheur, d'euphorie, de rapport enfin fusionnel avec le cosmos, etc.
Bah, c'est bien.
Alors c'est bien, mais je trouve intéressant qu'il y ait à la fois cette dimension très incarnée dans le repas. D'ailleurs, je m'aperçois que ça fait longtemps qu'on n'a pas déjeuné ensemble, et ça me manque, cher Marc. Et le fait de pouvoir effectivement lui donner cette dimension religieuse, et Serge aussi, que je salue, lorsqu'on dîne, il y a quelque chose dans l'amitié, dans l'échange des paroles, des regards, qui fait que manger n'est pas seulement lié à l'ingestion. Quand bien même on mange seul, d'ailleurs, si on ritualise, si on met son... si on mange pas n'importe comment, mais qu'on met son assiette, etc., une fleur, et qu'on prend le temps de comprendre que manger est une fête et que dans cette jouissance, il y a quelque chose de l'ordre d'un acquiescement, d'une adhésion au réel, etc. Ça, c'est magnifique. Et tu as raison, c'est vrai que Jésus se fait beaucoup inviter. Alors, on n'a jamais le menu, on ne sait jamais exactement, donc on peut imaginer, c'est cette cuisine méditerranéenne du 1er siècle,
sauf le barbecue
palestinien, sauf le poisson, effectivement, à la fin.
Mais alors, dans ta Bretagne, on ne fait pas trop de barbecue sur la plage, parce qu'en plein mois d'août, il fait 8 degrés.
Non, mais on sait ce que sont les pêcheurs et ce que sont les préoccupations des pêcheurs. Et la temporalité propre au monde de la pêche, qui est un monde. Mais voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur la pêche. Ce sera une autre
année.
Voilà. Mais l'idée de la manducation comme réjouissance, c'est pas pour rien d'ailleurs que les moines au Moyen Âge parlent de manger la parole. On parle de manducation et de rumination. Hein. La rumination, c'est essentiel. Et c'est très biblique, ça vient des prophètes, de la tradition prophétique, de Jérémie, etc. Donc il y a quand même ce lien entre l'humanisation, la nourriture, la parole, l'amitié, etc.
Oui, mais même, je dirais, alors c'est vrai qu'en prenant justement l'image de la nourriture comme étant aussi l'idée de manger la parole, et c'est vrai que ça traverse aussi bien les prophètes que jusqu'à l'Apocalypse, hein. Ça donne aussi un peu le mode d'emploi, finalement, du salut qui nous est donné, ou de ce que c'est que la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas des mots, ce n'est pas les lettres de la Bible. C'est quelque chose qui nous est donné, mais pour qu'on le mange, c'est-à-dire qu'on le déconstruise pour l'assimiler. Et que, voilà, quand on mange un beefsteak ou des nouilles, on ne devient pas une nouille. On est nous-mêmes, mais plus en forme. Et donc ça dit aussi quelque chose de ce salut qui est donné en Jésus-Christ, c'est donné pour qu'on l'assimile, pour qu'on devienne plus et mieux nous-mêmes, pas des clones, des photocopies de Jésus-Christ. Donc c'est pas, si on imite Jésus-Christ, c'est pas une imitation d'un, j'allais dire, servile, c'est plutôt, je veux dire, vivre, c'est l'incorporer, c'est-à-dire c'est le digérer, et puis qu'il y ait une dimension en nous qui devienne christique.
Plus on sera nous et plus on sera lui. Plus on sera fidèle. À condition que ce nous ne soit pas égotiste.
Mais, voilà, c'est ça.
Mais plus on va au bout du projet de Dieu sur nous, et plus on ressemble à Jésus. C'est ça qui est troublant.
Ouais, c'est ça,
plus je suis singulier, plus je vais jusqu'au terme de ce que, ce que le Créateur veut pour moi, plus je vais au bout de mon programme, et plus je suis ressemblant au Christ. C'est pour ça qu'il a tous les visages, d'une certaine manière. Vous savez, les pèlerins d'Emmaüs ne le reconnaissent pas. Parce qu'au fond, c'est l'homme qui a tous les visages. C'est ça qui est intéressant. Il n'est plus lié à une figure historique d'incarnation anecdotique, j'ai envie de dire. Il devient chacun de nous.
Paul explique bien ça dans Corinthiens 12 ou dans Romains 12, voilà, avec le corps et les différents membres qui font le corps enfin, voilà. Mais peut-être qu'on peut lire effectivement Jésus chez Marthe et Marie, donc c'est juste après la parabole du bon samaritain qui elle-même vient réfléchir sur ce qu'on appelle le sommaire de la loi, c'est-à-dire aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain comme soi-même. Et donc on a ensuite une première interrogation sur ce principe essentiel avec la parabole du bon samaritain. Et puis là, tout de suite après, il y a cette deuxième interrogation finalement qui interroge deux façons d'être chrétien finalement, deux façons d'être fidèle. Qui est-ce qui peut nous lire alors chez Marthe et Marie? Guillaume?
Chez Marthe et Marie. Luc 10, 38, 42. Comme ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe s'affairait à un service compliqué. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé seule à faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire, c'est bien Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »
Merci. C'est la traduction œcuménique?
Oui.
Ah oui, Marthe s'affairait à un service compliqué. Je n'avais jamais remarqué cette phrase.
Il n'y a pas marqué compliqué, je pense qu'il y a marqué multiple.
Ben alors, pourquoi il y a mis compliqué? Il y a eu plusieurs moutures, non? Sûrement. Mais c'est étonnant parce que du coup, on imagine quelque chose d'un peu sophistiqué, un peu à la libanaise, avec plein de plats, le mezzé, etc.
C'est bon d'ailleurs.
Oui. Alors là, on est en fait sur la route de Jérusalem. C'est la route qui va à Jérusalem. C'est étonnant parce qu'en fait, cette histoire de Marthe et Marie, on la connaît mieux dans la version de Jean, qui est d'ailleurs au début de l'évangile de Jean, mais on est tout près de Jérusalem, vous savez, c'est un peu ça. Je ne sais pas comment vous imaginez, mais on imagine Béthanie à 3 km de Jérusalem, donc une petite bourgade de Judée. Il y a la présence du frère, Lazare, etc. Ici, c'est une version un peu moins connue où Jésus descend de Galilée, et il a traversé la Samarie, et en fait, on est sur la route de. La localisation n'est pas la même, mais évidemment, on a tendance, c'est une tendance naturelle, normale et même assez saine, à superposer les mêmes textes lorsqu'ils racontent la même histoire, et on finit par ne plus voir évidemment les points de divergence ou les différences. Mais cette version-là est un peu moins souvent lue, quoiqu'elle soit lue quand même dans la liturgie dominicale.
Oui, parce que traditionnellement, dans cette histoire de Marthe et Marie, on y voit finalement l'action et la contemplation, finalement. La contemplation avec Marie, et puis Marthe qui représente plus l'action. Et alors effectivement, c'est très discuté de savoir si... Donc, bien sûr, c'est discuté de savoir qu'est-ce qui est la place parfaite, finalement, la place ultime. Est-ce que c'est au pied de Jésus à écouter sa parole? Ou est-ce que c'est dans le service qui est l'accomplissement finalement de la parole reçue?
Le terme, c'est multiplié.
Quoi?
Le terme grec.
Le sépolone, ou je sais pas quoi, c'est multiple.
C'est multiple.
Les multiples soins du service.
Mais ça, c'est pas mal, parce qu'il y a l'idée de multiplicité, et puis à la fin, il y a marqué une seule chose est nécessaire. Hein. Et donc, effectivement, il y a l'idée de l'unification. Et ça, je crois que peut-être c'est déjà ce dont nous discutions tout à l'heure, c'est que. En nous, il y a ce tiraillement entre de multiples dimensions, et en particulier par des instincts, un côté animal, et puis le côté spirituel, l'idéal, ou alors le tragique de la vie courante, où on doit casser des œufs pour faire une omelette, et puis l'idéal qui serait de vivre de l'air du temps. Et donc, il y a ce tiraillement, il y a cette agitation multiple, et il y a ce désir. Je crois que c'est une faim qui est très profonde dans l'homme, d'arriver à unifier un peu son être. C'est-à-dire d'avoir une paix intérieure et puis que les choses s'articulent d'une manière harmonieuse. Donc c'est quand même ça qui est visé, c'est pas l'agitation dans le multiple, mais c'est arriver à unifier son être. Alors ensuite, de quoi est-ce que les gens ont faim et qu'est-ce que nous recevons pour nous nourrir? Alors évidemment, il y a pour Marthe et Marie. À mon avis, comme je vous le disais tout à l'heure, l'action et la contemplation, on a soif de peut-être comme tes collègues qui s'ouvrent les narines pour sentir pétiller leurs cellules, on a quand même besoin de se nourrir d'idéal, de parole de Dieu, de prière, de méditation, on a besoin de se nourrir de spirituel. Ça, je pense que c'est très profond dans l'homme. Peut-être que la deuxième nourriture qu'apporte Dieu, particulièrement Christ, et c'est ça que Marthe propose finalement, que Jésus serve comme menu à Marie, c'est une vocation qui nous appelle à entrer dans un service, c'est-à-dire pas simplement nous dire que Dieu nous aime finalement, mais que nous sommes dignes, ou que je ne sais pas ce que pourrait cette première nourriture. Hein. Ça peut être la nourriture que mange Marie, que Jésus donne à Marie à ce moment-là, c'est quoi? Enfin, c'est pas Marie, mère de Jésus, hein, c'est Marie, la sœur de Marthe qui est l'amie de Jésus. C'est de la théologie, c'est de la confiance en Dieu, c'est sa dignité, c'est le pardon, c'est je sais pas moi. Voilà. Mais Marthe dit, mais voilà, il faut passer à un deuxième tome dans son enseignement, c'est une vocation, une mission, une responsabilité, lui dire qu'elle n'est pas simplement digne d'exister, mais qu'elle est digne aussi d'apporter quelque chose, sa créativité dans le monde. On pourrait dire, voilà, je crois qu'il y a déjà ces deux choses dont Dieu nous nourrit, dont la prière nous nourrit, dont l'étude de la Bible, la réflexion, le débat entre nous, la philosophie aussi, je pense, voilà, c'est peut-être le spirituel pur et la vocation. Alors il y a aussi une nourriture matérielle, parce que quand même, Jésus était en route, et ben, il faut qu'il fasse une pause avec ses disciples. Et donc, le pauvre Jésus, j'allais dire, mais il est souvent, effectivement, mis à rude épreuve, sauf quand il dit stop, ça suffit comme ça, et qu'il prend vraiment un temps de recul et de repos. Mais là, il s'arrête pour se reposer avec ses disciples dans une maison qui est loin d'être pauvre, manifestement. Hein. Et le service le reprend, c'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir tranquillement siroter une citronnade, comme le font les disciples, ses apôtres, pendant ce temps-là, finalement, eh bien lui, le service de la parole le reprend. Et il y a Marie qui s'assied à ses pieds pour écouter sa parole. Et donc, il s'y résout finalement à lui faire une cure d'âme, peut-être. Je ne sais pas comment ça peut s'appeler, ou un enseignement, ou des conseils, ou je ne sais pas quoi. Mais quand même, j'allais dire, il y a le fait d'entendre comme Marie la parole, il y a le fait comme Marthe d'entendre sa vocation, et puis de l'assumer. Et puis il y a comme les disciples, il y a un temps où simplement ben, on mange, on se repose, on fait la fête, on ne fait rien, j'allais dire, d'apparemment très utile, mais c'est une sorte de Shabbat finalement, et ça je crois qu'il y a une grande sagesse dans le Shabbat. Hein.
Ce qui est intéressant, c'est quand même que la tradition des églises, c'est d'avoir canonisé les deux. Donc, si on est tenté quelquefois de se dire « Ah ben moi, je suis plutôt Marthe ou plutôt Marie », c'est pas très grave, les deux s'en sortent bien, finalement. Oui. Donc les deux sont présentés comme des saintes. Alors, blague à part, je crois que c'est Maître Eckhart qui disait… Oui, justement, il disait…
Marthe est une Marie, oui.
Oui, voilà, il disait en fait, au fond… Alors, il donne quand même, parce qu'il ne va pas contrarier Jésus, il ne va pas dire le contraire, il donne quand même une préséance à la posture de Marie, mais en disant à condition qu'elle ait été Marthe avant. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit que Eckhart est un prédécesseur de Hegel, c'est-à-dire qu'il y a une dialectique. Il y a une dialectique, il faut avoir été les deux. Et l'unique nécessaire, l'unicum necessarium, c'est vraiment quand on passe... oui, on le dit beaucoup, c'est devenu un lieu commun de prédication, l'unique nécessaire, ou la meilleure part, si vous voulez, c'est à condition d'avoir été Marthe. Sinon, on aboutit à une espèce de bipartition figée, qui est absurde. Ça me fait penser à ces grandes congrégations féminines où il y avait les grandes dames qui priaient au cœur pendant que les converses faisaient planter les patates, etc. Alors, effectivement, les grandes dames, alors si elles avaient été aussi... C'est ça qui est compliqué toujours dans ces familles spirituelles où on finit par se spécialiser, en fait. Or, Jésus n'invite pas à la spécialisation. Il n'oppose pas l'action et la contemplation. Il montre que, précisément, c'est une sorte de tressage dialectique, à tel point que Maître Eckhart dit même que... Je ne sais pas si c'est Maître Eckhart qui dit, mais au fond, dans cette histoire, il n'y a qu'une femme et qui est tour à tour, tour à tour les deux. Et au fond... Les deux figures sont deux figures, je ne sais pas si c'est l'éternel féminin, mais en tout cas complémentaires. Et effectivement, il y a une figure de dispersion, une figure d'unification, de recentrement, mais à condition évidemment d'avoir connu aussi l'action, son ambiguïté, son insatisfaction et sa dispersion qui menace toujours.
On pourrait dire l'inverse, Marie doit passer à un stade, comme dit Maître Eckhart, il doit passer du stade de la contemplation au stade du service.
Voilà, elle doit retourner une fois, parce que Jésus, quand il va se lever, elle va se lever aussi. Et donc là, elle repart et elle va agir. Elle ne va pas rester en lévitation, comme dans le film de Pasolini. Donc c'est intéressant, elle redevient Marie d'une certaine manière. Donc au fond, c'est l'action qui compte.
Ben, c'est, voilà, et donc les deux se tissent. Mais d'ailleurs, je crois que là, la traduction de la traduction communique n'est pas bonne. C'est bien Marie qui a choisi la meilleure part. Du coup, on dit, voilà, c'est Marie qui a gagné, en fait. Mais non, ce n'est pas ce qui est marqué. Il y a marqué, Marie a choisi la meilleure part pour elle.
Ah oui.
Non, c'est pas. Il n'y a pas marqué. Marie a choisi la meilleure part.
Il y a peut-être un datif éthique ou quelque chose comme ça.
Il n'y a pas marqué pour elle. Elle a choisi la meilleure part, oui. Mais il n'y a pas marqué qu'elle n'a pas choisi la meilleure part pour elle à ce moment-là.
Ah oui.
Il n'y a pas marqué que c'est la meilleure part
absolue.
En absolu.
Oui, d'accord.
Ou que c'est la part ultime.
Oui, oui.
Et je ne crois pas que ce soit l'unique nécessaire, justement.
Oui.
C'est là que c'est intéressant que Jésus soit sans arrêt en train de manger.
Ça elle assume. A pris le beau rôle, c'est ça que tu veux dire. Elle, c'est,
elle a pris le beau rôle pour elle à ce moment-là, c'était parce qu'elle avait besoin de ça. Et, donc, et finalement, le tort de Marthe, c'est... finalement, elle est peut-être à un stade plus avancé en étant passée de la contemplation au service de l'autre. Jésus est le serviteur, on voit bien dans Jean 13, par exemple. Mais là où elle a tort, c'est qu'elle dit... elle fait un reproche à Jésus et elle donne un ordre à Jésus, dis-lui donc de m'aider. Donc là, c'est un peu ennuyeux parce que, bon, soit elle est dans l'écoute, j'allais dire, de la parole de Dieu, soit elle est dans l'écoute de sa vocation et donc elle est dans le service, mais elle ne doit pas se mettre en position de donner des ordres à Dieu et en particulier de savoir mieux que Jésus-Christ qu'est-ce qui serait bon pour Marie et mieux que Marie elle-même. Là, on est effectivement dans quelque chose qui n'est pas correct.
Oui, mais c'est ce qui rend sympathique Marthe. Moi, j'aime bien les gens qui chahutent un peu Jésus.
Oui, on a le droit.
C'est
Dieu aussi, d'ailleurs.
Oui.
C'est un grand classique biblique.
C'est intéressant. Dis-lui donc de m'aider. Parce que je pense qu'au fond, derrière tout ça, mais on ne le dit jamais. C'est pour ça que moi, ça me gêne. Mais je sais que certains exégètes le suggèrent. Il y a quand même un préjugé culturel derrière. C'est-à-dire que Marie, en étant au pied de Jésus, elle prend la position du disciple. Elle prend la position d'un homme. Parce que seuls les hommes étaient dans l'entourage immédiat de Jésus. Elle prend la position de l'apôtre. Et pour Marthe, c'est insupportable. Parce que la place d'une femme, c'est le gynécée, c'est le monde. Et je le dis sans mépris. Mais dans la culture méditerranéenne de l'époque, voir une femme avec des hommes se mettre au pied d'un homme pour l'écouter dans la posture du disciple, de l'élève, comme dans la tradition grecque, où il n'y a jamais de femme. Je pense que c'est ça aussi qui choque et qui agace Marthe, qui est pour une répartition traditionnelle des tâches. Et donc, elle lui dit, voilà, maintenant ça suffit, on siffle la fin de la récréation et on revient à l'ordre ancien. Alors, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Ça veut dire que Jésus... déjà transgresse quand même, sans aller jusqu'à dire « il n'y a plus ni homme ni femme », etc., ce que dira Paul. Mais on voit bien que dans l'entourage de Jésus, il y a déjà quand même une espèce de libéralisme, quelque chose de nouveau. Quoi.
Et lui-même dans Jean 13, que je citais, où il se pose comme serviteur, quand même il enlève ses vêtements, il met une serviette autour des reins et il se met à quatre pattes pour laver les pieds de ses disciples. En fait, il se prend la position non pas d'un serviteur, mais d'une servante en fait.
Oui.
Donc il accepte de prendre un rôle de vraiment féminin, de femme, et puis d'une femme, j'allais dire, de la plus humble bonne, en fait, de la maison. Et donc ça, c'est effectivement, c'est du ni homme ni femme, quand même. C'est quand même très subversif. Juste avant, d'ailleurs, juste avant de nommer Marie-Madeleine apôtre des apôtres, effectivement aussi.
Ouais,
et donc là aussi, Ça prépare aussi cet universel des vocations diverses pour l'homme comme pour la femme.
D'aucuns voyaient d'ailleurs dans Marie une figure de Marie-Madeleine, parce que pendant longtemps on a confondu.
Oui, on ne sait pas exactement combien il y a de Marie dans le total.
Ouais.
Mais moi je vois un troisième rôle quand même, c'est les disciples qui sont là. Donc au début, ils étaient en route, donc ils sont là. Et au milieu, ils sont ni au service ni au pied de Jésus. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de tableaux, parce que des tableaux de Jésus chez Marthe et Marie, vous en trouverez au Louvre. Il y en a dans pas mal de musées. C'est aussi un lieu commun de la peinture. Et toujours dans un coin, d'abord, il y a une table avec des victuailles. C'est vrai, une nature morte, souvent absolument formidable, couverte de victuailles diverses et variées. Et puis... on voit Jésus effectivement dans un coin qui enseigne Marie, Marthe qui est à la cuisine, et puis il y a toujours le groupe des disciples dans un coin qui sont en train de vider un verre en bavardant. Et ça, je trouve que cette troisième figure, elle est importante aussi. C'est le temps de la, j'allais dire, du repos, le temps de jachère, où on fait, je ne sais pas, on peut faire quelque chose, on peut faire des sudoku, ou je ne sais pas si ça se fait encore, moi j'ai jamais fait ça, je ne comprends rien. Mais on peut regarder bêtement des vidéos rigolotes sur YouTube, ou je ne sais pas quoi. Parce que c'est, voilà, c'est du temps de jachère pour notre être aussi, qui n'est pas fait pour servir 24 heures sur 24.
Il y a un très beau tableau à Saint-Gervais, pas très loin d'ici, école française, 17e, qui représente cette scène et on voit les disciples dans un coin, ouais, qui sont un peu
des
oui, puis un peu, c'est un peu les seconds couteaux, enfin les seconds rôles, quoi, comment on appelle ça, des figurants. Voilà. Texte suivant, peut-être.
Oui, Simon.
Alors Simon, qu'on appelle Simon le pharisien. Simon le lépreux, quelquefois, de chez Matthieu, on l'appelle Simon le lépreux. C'est le fameux banquet. Tu as dit qu'il n'était pas très sympathique, c'est vrai que c'est l'image du coup qu'on a de lui.
On va voir, oui,
voilà.
Un peu.
C'est une de mes pages préférées, ça. Très très belle. Où la femme est vue aussi comme une figure de Marie-Madeleine, puisque là, décidément, on n'en sort pas. Voilà. Quelqu'un veut. Allez-y.
Simon, Luc 7, 36, 50. Un pharisien l'invita à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Survint une femme de la ville qui était pécheresse. Elle avait appris qu'il était à table dans la maison du pharisien. Apportant un flacon de parfum en albâtre et se plaçant par derrière, tout en pleurs, aux pieds de Jésus, elle se mit à baigner ses pieds de larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux du parfum. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Parle, maître, dit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grande dette. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle a baigné mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Si je te déclare que ces péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peut montrer. Pardon. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Dit à la femme, tes péchés ont été pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, quel est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix.
Je me disais en relisant qu'effectivement tout ça, ça a dû quand même prendre un certain temps. Apportant un flacon de parfum, etc. Quelquefois on dit un art de grand prix, enfin. Et puis toute la scène, le déploiement de la scène, les pieds de Jésus, elle se met à baigner ses pieds de larmes, elle les essuyait, elle les couvrait de baisers, répandait sur eux du parfum. C'est un imparfait qui a une valeur durative, donc on imagine que la scène prend un certain temps. Et alors ce qui est étonnant, c'est la réaction du pharisien qui se dit en lui-même, c'est une des rares fois dans l'évangile, à part peut-être la réaction d'Élisabeth au moment de la visitation. On dit aussi une fois que Jésus exulte en lui-même, mais c'est une des rares fois où le narrateur omniscient, hein, comme on dit, qui sonde les reins et les cœurs, nous faire entrer là. C'est un peu comme dans les bandes dessinées, vous savez, vous avez la bulle avec des petits ronds, hein, c'est celui qui pense, les pensées, les arrière-pensées, les pensées derrière la tête là, du capitaine Haddock. Alors, ici, c'est un peu étrange, c'est pour ça qu'on le juge beaucoup, finalement, à travers cette pensée. Hein, le pharisien qui se dit, si cet homme était un prophète, il saurait qu'il y ait cette femme. Mais bon, alors, on peut imaginer que le narrateur lucanien, puisqu'on ne prête qu'aux riches, au fond, donc il sait à quel type d'homme il a affaire, et dans quelle culture il baigne, et quels sont les préjugés socioculturels de cet homme-là. Donc, au fond, c'est une figure un peu... C'est une figure qui est, comment dire, un peu... fait qui condense à mon avis plusieurs figures de pharisiens. C'est peut-être pas un personnage qui est doté d'un caractère bien typé, c'est pas le personnage balzacien. Vous voyez, c'est un personnage qui représente un peu le monde des pharisiens, qui est un monde du coup qui devient un peu au fond anonyme à force d'être soumis à des schémas de pensée, à des préjugés socioculturels.
Alors de quoi il a faim et soif, ce pharisien, finalement? Il a quand même, il a faim et soif de parole de Dieu, parce qu'il se pose la question de savoir si Jésus était prophète. Donc il espère avoir quelque chose qui vient de Dieu, quand même. Donc il y a une vraie, quand même, démarche, attente, qu'on peut appeler une démarche de foi, parce que la foi, c'est pas... C'est, tant mieux si elle va jusqu'à... découvrir le Christ et Dieu lui-même, mais la foi, c'est d'abord cette recherche, cette recherche de Dieu. Mais c'est ce qu'il fait. Finalement, il choisit délibérément. Là, il y a là un bonhomme qui sort un peu de l'ordinaire, dont on dit peut-être que non. Il dit, ben, je vais l'inviter pour voir. Et ça, je trouve que c'est déjà une démarche de foi et sans doute est légitime. Pour nous, c'est très facile. J'allais dire aujourd'hui de savoir que Jésus est le Christ, parce qu'on n'a pas finalement à en faire l'invention. Mais évidemment, c'est difficile à l'époque pour tout le monde, y compris même pour Jésus lui-même, qui se pose d'ailleurs souvent, à mon avis, la question de savoir qui suis-je. Il ne le demande pas comme une devinette, il le demande parce qu'il se pose aussi, à mon avis, la question. Donc là, c'est légitime. Il a, je crois, si on voit ce personnage, il a soif d'une deuxième chose, finalement, c'est de justice quand même. C'est-à-dire, il dit, voilà, cette femme est pécheresse, donc c'est pas juste de faire mine de rien, il faut l'envoyer à sa place, c'est-à-dire avec les gens sales, les gens qui se comportent mal, et pour lui, donc il a soif de justice. Alors effectivement, la parabole de Jésus, elle développe un autre type de justice finalement. Et donc sa fin de justice, elle est aussi actée par Jésus, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mauvaise cette fin de justice. Simplement, il faut évoluer dans sa notion de justice. D'ailleurs, dans les Béatitudes, hein, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés, ben, ça va être le cas du bonhomme. Il a une notion de la justice qui est celle de la rétribution. Le coupable mérite d'être jeté dehors. Et Jésus propose un autre modèle, finalement, où le coupable, parce qu'il n'est non solvable, bah, il est bien digne du pardon de Dieu, puisqu'il ne peut pas par lui-même réparer ses fautes. Et donc, voilà. Et donc c'est un autre type de justice. C'est une justice... j'allais dire, je ne sais pas comment on peut dire, curative, qui vise d'aller vers le malade comme un médecin va vers quelqu'un qui a la fièvre. Hein. Donc c'est finalement une justice qui est à l'envers. C'est-à-dire que le médecin, il va d'autant plus vers celui qui est le plus malade, il va trier les urgences, et les urgences gravissimes, il va s'en occuper le plus et en premier. Donc c'est l'inverse d'une justice rétributive, où on va donner plus de cadeaux à celui qui est en forme, qui est performant, et puis celui qui est mal foutu, et qui se porte mal, ben, on va le jeter à la poubelle. Donc il y a un retournement qui est proposé de la justice, mais finalement, la fin profonde du pharisien, qui est fin de parole de Dieu, fin de justice, elle est bien prise en compte par Jésus, finalement, et je trouve que c'est très sympathique d'accueillir la faim et la soif profonde des gens, et peut-être de chercher à y répondre de la façon qui nous semble juste, mais...
Moi, je pensais en relisant cette scène, vous savez, à des moments de nos vies, on connaît tous ça, des scènes un petit peu incongrues. C'est-à-dire quelque chose se passe qui ne devrait pas se passer. On est entre gens du même monde, du même microcosme, tout va bien, on parle le même langage, on a les mêmes codes, il n'y a pas trop de dérapage. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe qui ne colle pas, qui détonne, qui fait tache dans le tableau parce que là, il y a une personne qui ne maîtrise pas les codes, par exemple. Et alors ça peut être drôle, on peut en faire un film comique. Il y a beaucoup de films comiques qui reposent là-dessus. Ça peut être tragique aussi si on juge la personne, par exemple, ou si on lui prête des intentions, alors qu'au fond c'est une maladresse qui quelquefois a le sens exactement inverse qu'on lui prête. Et pour peu qu'on soit uniquement intoxiqué de ces préjugés, justement, ou d'images un peu préconçues qu'on a sur les relations humaines, eh ben, tout est jugé de travers. Et je pense qu'on a quelque chose ici d'assez identique. Je suis toujours effectivement très, très mal à l'aise dans ce genre de situation, pas mal à l'aise au sens social ou mondain, mais mal à l'aise parce que je me dis, mon Dieu, voilà la personne qui va être jugée, alors qu'au fond, elle croyait bien faire, ou parce qu'elle n'a pas les mêmes, je ne sais pas, un acte par exemple qui se veut un acte de générosité, mais qui est vu comme intrusif, ou qui est vu comme extrêmement maladroit, une parole qui est vue comme profondément irrévérencieuse, alors qu'elle se voulait une parole de complicité, amicale, mais qui est trop familière. Vous voyez ce genre de décalage? Et là, je pense qu'il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, et c'est pour ça que Jésus fait après le parallèle. Il dit, tu vois cette femme, je suis en train dans ta maison, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Mais il ne lui reproche pas, c'est normal, ce n'est pas un esclave, il n'a pas à lui verser d'eau sur les pieds. Mais voilà, il lui dit, tu n'as pas fait ça, elle l'a fait à sa manière, et même elle a fait plus, elle les a parfumés, tu n'as pas fait ci, elle a fait ça. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que du coup, Jésus est celui, et ça c'est très prophétique, il aide à ouvrir les yeux du cœur au fond, et pas les yeux du monde, ou au sens mondain du mot. Au fond, c'est le rôle d'un disciple aussi, de prendre la relève et d'être capable, dans une situation qui est mal jugée, bah, de pouvoir dire, mais non, vous voyez ça, mais en fait, c'est pas ça qui s'est passé. Et je trouve ça, c'est très beau.
Ah oui, c'est beau. Oui.
C'est vraiment, ça, c'est du grand Jésus.
Et puis, est-ce qu'on n'a pas un peu, finalement, ce qui était, je dirais, vu par Marie dans le Magnificat, avec marqué les puissants seront détrônés et puis les humbles seront élevés. C'est-à-dire que là, voilà, il se permet in petto, de dire c'est une sale pute, elle vaut rien, c'est vraiment une traînée. Pas comme moi, mais il y a une mise en scène aussi décidément, Jésus devait être pharisien pour parler aussi durement des pharisiens. Le pharisien et puis le pauvre pêcheur qui va prier, le pharisien dit « Ah, moi je m'ai bien digne de tout, je ne suis pas comme ce sorte de pêcheur qui fait bien d'avoir honte devant le Seigneur. » C'est la même chose, lui il se sent supérieur, il se sent bien parce qu'il est très religieux, il est correct, il ne vole personne, il se sent bien. Et donc il méprise la pécheresse. Et Jésus montre que la hiérarchie est dans l'autre sens en fait. Que lui, il est celui qui a été petit, qui a eu peu de reconnaissance, peu de gratitude, peu de générosité. Il a manqué donc à l'hospitalité, ce qui est sans doute une faute, j'allais dire, beaucoup plus grave qu'elle ne l'était à l'époque que maintenant pour nous, je pense.
Oui, tout à fait. Et même nous, ça nous... Déjà, ça, voilà.
Oui. Et donc c'est elle qui est la noblesse, en fait. Et donc il y a ce retournement qui est quand même intéressant. Aussi peut-être aussi sur la faculté de juger les autres. Il a jugé finalement sur ses actes. D'ailleurs, je sais pas, Jésus dit pas qu'elle n'est pas pécheresse, hein, puisque tes péchés sont pardonnés, ont été pardonnés plutôt, hein, parce que ça veut dire comme si un passif comme ça, c'est bien traduit, ont été pardonnés, c'est un passif, c'est-à-dire qu'ont été pardonnés par Dieu, c'est pas lui, il dit pas je te pardonne. Hein, il annonce le pardon qui a précédé, hein, de Dieu, Mais ça veut bien dire qu'elle est pécheresse. Donc dans un sens, il est d'accord avec le, là aussi, avec le constat. C'est pareil pour la femme adultère. Il n'y a pas marqué, oh, écoute, c'est pas grave, c'est pas si grand-chose. Non, il dit, bon, bah, je te condamne pas non plus. Mais va, il ne pêche plus quand même. Donc là, c'est un peu ça, quand même. Mais il ne juge pas la personne sur ses actes, quoi, sur ce qu'elle a fait. Il voit peut-être l'intention derrière ce qu'elle fait. Par exemple, là, le fait de faire ce qu'elle fait, c'est des larmes de joie, finalement, je pense, non ? C'est des larmes de quoi, ça ?
Ce qui est étonnant, c'est qu'on a la même question que celle qui va se poser avec la parabole de l'enfant prodigue, c'est-à-dire finalement elle est pardonnée parce qu'elle a aimé ou bien elle est capable d'aimer parce qu'elle se sait déjà pardonnée. Bon, on a l'impression que Jésus apporte la réponse, mais en fait dans la logique c'est pas aussi clair que ça. Et là c'est intéressant, je n'irai pas jusqu'à dire que nos églises respectives ont tranché à une certaine époque dans la lecture de la lettre aux Romains, mais c'est un peu ça aussi avec le fils prodigue. On va le voir tout à l'heure. Le fils prodigue demande pardon parce que son père court vers lui et l'amour précède quand même le pardon, en fait, c'est l'expérience du pardon. Donc ici, c'est intéressant.
Ici, c'est clair quand même.
Oui, mais pas tant que ça.
Si, sa parabole est claire.
Mais en grec, pas tant que ça. Parce qu'en fait.
Dans la conclusion, oui, mais dans la parabole.
On a l'impression qu'elle qu'elle aime parce qu'on lui a
pardonné. Parce qu'on lui a pardonné.
Oui,
mais en même. Le verset 42, c'est ça.
Oui, mais si elle vient et qu'elle fait cet acte-là, c'est qu'elle sait que cet homme est capable de lui pardonner. Elle ne sait pas encore qu'il va le faire, mais au fond, elle n'a pas besoin qu'il lui dise tellement. Parce que c'est sa présence qui est... Vous savez, c'est comme quand on sait qu'on doit demander pardon à quelqu'un. Si l'autre reste d'une dureté inflexible, il y a peu de chances qu'on lui demande vraiment. Mais si l'autre, on voit bien qu'au fond, c'est quelqu'un qui sera capable de pardonner. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que le pardon, d'une certaine manière, dépasse l'acte du pardon.
Oui, d'accord.
Dépasse la parole qui dit « je te pardonne ». C'est une manière d'être. Moi, je vais demander plus facilement pardon à quelqu'un dont je sais que... Voilà, que
il y a une vraie amitié.
Et que, ouais. Que le pardon le traverse, l'habite, le transforme, le travaille. Et donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Sinon, ce serait purement mécanique. Y a des gens à qui on a du mal à demander pardon parce qu'on sait qu'ils sont là en train de se dire « Ah, ah, je te pardonne pas si tu ne me demandes pas, etc. » Mais est-ce qu'on est dans le pardon ? Là, on tombe dans une espèce de mécanique et du coup, souvent, ça ne marche pas, d'ailleurs. Et si la confession, par exemple, sacramentelle, n'était vécue que comme ça, ce serait épouvantable. On s'adresse à un Dieu dont on sait que de toute façon il est pardon, il est miséricorde.
Oui.
Il n'est pas là en train de dire attention, je vais différer ma réponse, il faut que je réfléchisse, voilà.
D'ailleurs, là-dessus, en fait, bon, effectivement, nos églises se sont longtemps disputées là-dessus, mais depuis 99, en fait, 1999 ou 2000, je ne sais plus. Il y a l'accord sur la justification, disant effectivement, ce n'est pas notre contrition ou je ne sais quoi qui est nécessaire à Dieu pour qu'il puisse nous aimer et pardonner. Donc le pardon, il précède la repentance, la contrition et tout ce qu'on veut. Mais c'est nous qui avons besoin de faire cette démarche pour vivre de la grâce et du pardon de Dieu qui a précédé, bien sûr, la contrition. Donc le pardon est gratuit, puisque bon, la définition même de la grâce, c'est que c'est gratuit. Mais simplement, pour en vivre, il faut que l'homme a besoin lui-même de faire une démarche pour s'approprier, vivre, ruminer, se nourrir peut-être, de ce pardon et trouver une énergie peut-être pour changer, pour aller mieux, pour se pardonner à soi-même aussi. Souvent, c'est le plus difficile d'arriver à se pardonner à soi-même. Et donc je pense que bon, l'annonce du pardon qui est fait par l'Église, c'est pas comment dire, c'est pas que le pardon de Dieu soit conditionné par la déclaration de pardon de l'Église. Dieu il pardonne parce qu'il est amour, point. Mais cela dit, cette déclaration de pardon, elle est quand même nécessaire. et même indispensable. C'est une question de vie et de mort, parce que souvent, on a besoin de s'entendre dire le pardon de l'extérieur, parce que ça objective la chose, et donc on en a besoin, quoi. Oui, c'est ça, de se l'entendre dire.
C'est extraordinaire, parce que là, on est un peu... là j'ai fait une confession presque à 200% protestante, oui. Et là, tu réhabilites un peu la parole sacramentelle du pardon. Non, mais c'est formidable.
C'est ce que dit la DCJ, quoi. C'est ce que dit la déclaration commune pour la justification. C'est-à-dire la grâce n'a pas d'autre cause que l'être même de Dieu, le pardon n'a pas d'autre cause que ce que Dieu est. Bon, c'est son style, son genre d'aimer et de pardonner, donc point, c'est tout, quoi.
Oui. Mais en même temps, c'est
mais bon. En même temps, il faut se l'approprier, il faut en vivre, il faut faire place à ça. Et donc, bah, ça demande, oui. Mais alors ensuite, le problème, c'est est-ce que nos rites, nos liturgies, nos sermons rendent bien compte de ça? C'est ça la question.
C'est ça le travail œcuménique.
C'est ça le travail œcuménique.
Enfin non, le travail
de conversion.
Oui, et puis c'est de l'Église. Oui, oui, oui.
Et puis oui, c'est ça. Oui, oui. Donc
Zachée, parce qu'on est dans quelque chose d'assez proche, c'est pour ça.
Oui.
Moi, je me souviens de Christ. Oui, vas-y.
Il y a quand même chose de rigolo. Bon, tes péchés sont pardonnés, d'accord. Ta foi t'a sauvé. Normalement, on dit c'est Jésus qui sauve, c'est Dieu qui sauve. Je sais pas quoi. Là, c'est sa foi qui a sauvé quand même. Là, ça va dans le sens de ce que nous disions. C'est-à-dire que c'est pas Jésus qui sauve. C'est sa foi. Et puis ensuite, le va en paix, c'est peut-être l'envoi en mission, c'est peut-être la vocation. Et il profite pas de la gratitude de cette femme pour s'en faire une servante. Il l'envoie au service, mais il l'envoie en mission. Le va, il fait quasiment d'elle, là encore, une envoyée, hein, c'est-à-dire une... Je ne sais pas comment... Quel est le mot pour ça? Est-ce que c'est... je ne sais pas. L'acceptant.
Pour le mot va en paix.
Pour va, oui.
C'est va. Erku. C'est pas Erku. Ou LT, pour, LT.
Pour eux au mail. Hein, pour,
un peu eux. Oui, pour oui, eux. D'accord. Ouais. Pour eux au mail, c'est... avance.
Pour eux au mail, c'est avancer.
Oui, oui.
À l'impératif, avance. Donc c'est oui, c'est ça, c'est quand même l'idée de cheminer dans... Alors la paix, c'est un peu plus que bon, je te laisse tranquille, et puis une paix intérieure, c'est aussi la paix en hébreu, hein, parce que là, c'est des, comme tu disais, c'est quand même du décalque des Septante. La paix en hébreu, c'est plus simplement que vivre en paix avec ses voisins, puis en paix intérieure. C'est quand même l'idée d'une évolution qui va à son aboutissement. Donc c'est l'idée d'une genèse, c'est l'idée d'une progression, c'est l'idée quand même d'un aboutissement de son être. C'est quand même assez, c'est un vrai programme, quoi. Hein, c'est pas simplement bon, allez, vas-y, maintenant tu peux te reposer, t'es tranquille. Au contraire, il y a un défi dans ce va. C'est très dynamique, aussi bien dans le va que dans le paix. C'est un programme de cheminement et de genèse de son être dans ce pardon et puis dans cette foi qui répond à la grâce. Oui. Alors Zachée.
Oui, Zachée, parce que c'est Christine Pedotti qui m'avait dit, mais au fond, ces textes, on croit les connaître, mais si on se dit que c'est Nabila et Jérôme Kerviel, évidemment, c'est plus compliqué. Mais c'est pourtant le cas. Hein, ce ne sont pas des gens qui sont valorisés par la culture haute de l'époque. Hein, cette femme, qui n'a même pas de nom, d'ailleurs, vous avez vu, hein, qui est une anonyme. Et puis ce type qui est un margoulin, quand même. Alors je sais bien qu'on est dans les affaires et dans les machins gate et compagnie depuis des semaines, mais au fond, tout ça, on n'aime pas. On aspire quand même à en sortir à un moment. Là, c'est le Zachée Gate. C'est celui qui, comme beaucoup de gens de sa profession, déjà ne peut pas pratiquer un judaïsme pur, puisqu'il est au contact des occupants en permanence. Bon, il est vu un peu comme un collabo. Et puis, comme ces gens qui soit par le marché noir, soit par, à d'autres époques de notre histoire. Nous avons connu ça, des gens qu'on montre du doigt parce qu'ils se sont enrichis rapidement. Donc c'est un peu ça. C'est pas un type non plus très... Il fréquente pas la bonne société de l'époque, les grandes familles de la caste sacerdotale de Jérusalem. C'est un peu le nouveau riche, quoi. Le parvenu, le bling-bling, je sais pas quoi. Alors, on peut le lire. Serge, vas-y.
Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Survint un homme appelé Zachée. C'était un chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus et il ne pouvait y parvenir à cause de la foule parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit « Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Vite, Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient, il disait « C'est chez un pêcheur qu'il est allé loger. » Mais Zachée s'avançant, dit au Seigneur « Eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
Merci, Serge. Tout ça d'ailleurs fait suite, vous savez, il y a beaucoup de textes sur la perte chez Luc. La drachme perdue, la brebis perdue, le fils perdu, etc. Et au fond, vous savez, on a un rapport avec la perte qui est compliqué. Soit c'est la nostalgie, l'idée qu'on a perdu quelque chose à tout jamais, qu'on ne retrouvera pas. Soit c'est le jugement. Quand on dit une ville de perdition, par exemple, Paris, une ville de perdition, la perte, les gens perdus, hein, les filles perdues, etc. Et dans l'idée de... Je pense qu'à l'époque, c'était pareil, c'était même pire, sûrement. Dans ce jugement, dans l'idée qu'une personne est perdue, il y a quand même un jugement qui est très païen. C'est-à-dire que, pour le coup, là, elle est enfermée complètement dans son passé. C'est-à-dire que c'est une vision pessimiste de l'histoire qui prévalait à l'époque quand même. Pensez au tragique grec. Le tragique grec, c'est ça. C'est que les hommes ne peuvent rien, ils sont perdus. Il n'y a aucun salut possible, on ne peut pas s'en sortir. Voilà, on est perdus. Il y a les filles perdues, les hommes perdus, et lui, il est perdu. Et quand on dit que tous murmuraient, c'est pas facile pour nous, mais on faut un peu. Vous savez, dans les textes de l'Évangile, il faut se projeter dans tous les personnages. Y compris dans Jésus, d'ailleurs. On a le droit de se projeter dans Jésus, heureusement. Mais il faut se projeter aussi dans les gens comme ça. Et les gens qui disent, oh là là, regardez, il est allé chez un type, vraiment, il aurait pu faire autre chose. C'est comme si le pape est en voyage officiel, puis qu'il se fait inviter chez des gens qui ne savent même pas qui il est. On se dirait, mais voilà. Et on le dirait en plus avec raison. C'est ça qui est terrible. C'est qu'il y a une raison dans les gens qui murmurent. Ce n'est pas uniquement des salauds. C'est la logique humaine lorsqu'elle est confortée par le regard des autres, par les traditions, par la coutume, par la paresse aussi, la paresse mentale, la facilité, le bon. Mais nous-mêmes, on fait ça sans cesse. Or, Jésus dit, voilà, aujourd'hui le salut. Donc il n'est plus dans le passé, il n'est pas dans l'idée du déterminisme social qui nous enferme, vous savez, comme dans les romans de Zola, où on est enfermé, on est alcoolique parce que la mère était alcoolique. Vous savez, dans les romans de Zola, c'est toujours comme ça. Il y a une espèce de déterminisme absolu. Il n'y a jamais aucune lumière possible, d'une certaine manière. Et là, tout d'un coup, Jésus rompt ça. Il casse cette logique qui est mortifère de dire on va enfermer les gens dans leur passé. Ben non. Et on le fait sans cesse, même dans une paroisse. On se dit, ben ça, c'est les ouvriers de la dernière heure. Alors que nous, on est là depuis toujours, on est fidèles. Et c'est vrai, c'est vrai que c'est dur à avaler. Hein. Mais c'est Jésus qui le fait et qui prend cette liberté, cette autorité. C'est une question d'autorité. Il dit, maintenant, ça suffit, voilà, cet homme, il change, il va changer, et il donne des signes de ce changement.
Alors lui, il a faim au verset 3, donc il cherchait à voir qui était Jésus. Je trouve que c'est quand même rigolo, parce que voir qui il est, c'est pas simplement voir son visage, en fait. Donc c'est faire l'expérience, finalement, de ce qu'est Jésus. C'est pas simplement le savoir, parce que quelque part, il a appris qui il était, puisqu'il cherche à le voir. C'est bien que la foule, finalement, cet effet vecteur de quelque chose sur Jésus. Donc du savoir, à la limite, il l'a. Mais il cherche à voir, c'est-à-dire avoir une expérience non médiatisée de Jésus directement. Et c'est effectivement une bonne démarche. Et pour ça, il faut la foule qui était dans un premier temps une aide, elle va dans un deuxième temps être un obstacle et une gêne, un écran finalement à son expérience personnelle de Jésus. C'est la même question pour l'Église, j'allais dire, c'est un peu un défi, c'est qu'on est là pour annoncer l'Évangile et pour présenter et faire savoir qui est Jésus. Mais il y a un moment où l'Église elle-même est obstacle, je pense, peut-être peut être obstacle, ou en tout cas nous on est appelés à passer par-dessus la tête de l'Église, de tout ce qu'on a toujours dit sur Jésus, pour passer au-delà du savoir, pour être dans le voir, c'est-à-dire dans cette... Se voir face à face, comme Moïse avec Dieu. Alors il y a deux obstacles là-dessus. Il y a la foule, bien sûr, il doit passer par-dessus la foule, ou plutôt il la devance, en fait, il va courir en avant pour la devancer. Et puis il y a sa petite taille. Alors on pourrait dire, bah oui, aussi c'est notre petite taille, notre petite foi, comme Simon, hein, qui avait une petite foi dans un sens. Marthe qui critique trop, Zachée qui est un peu voleur et puis qui est petit. Alors il n'est pas que petit par la taille, il est aussi petit, ça nous est donné, parce que ce serait une anecdote risible, une anecdote qui nous est donnée pour qu'on vienne l'habiter, comme tu dis, et donc en disant, ben voilà, on est trop petit pour voir Jésus, nous il nous manque seulement 2000 ans quoi, de taille pour arriver à le voir. C'est un peu ballot. Donc il court en avant, il monte sur un sycomore. Donc c'est ce que nous faisons, finalement, monter dans un sycomore. On essaye, par l'étude, la réflexion, de s'élever un peu. S'élever un peu par la prière, par en faisant pétiller les cellules. Je m'appelais beaucoup dans
oui,
c'est pour ça. C'est la Pentecôte des cellules, quasiment. Elles sont pentecôtisées.
Effervescence.
Oui. Donc finalement c'est ça qu'on peut viser, oui, c'est ça, c'est dans la méditation des Écritures, dans le débat, dans la prière, s'élever un tout petit peu pour arriver à passer par-dessus tout ce qu'on nous a toujours dit sur Jésus, pour que finalement ça débouche vers une expérience de Jésus. Et alors ensuite, ce qui lui tombe sur la tête, c'est même plus que voir qui il est, c'est le fait qu'il demeure dans ta maison, c'est quand même immense, parce que demeurer, c'est comme en français, hein, mais ça marche aussi bien en grec qu'en hébreu d'ailleurs. Demeurer, c'est demeurer éternellement, c'est pas simplement demeurer et habiter deux minutes, hein. C'est l'idée, c'est ambigu comme nous, hein. Jésus demeure, il demeure éternellement. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que peut-être que voilà, il faut descendre. Il a vu Jésus, donc il peut y avoir, ça peut être le moment de la contemplation, j'allais dire de l'expérience spirituelle ou de l'intuition théologique, existentielle, moment peut-être de vérité sur qui nous sommes, notre histoire, enfin je sais pas quoi moi. Mais après il faut redescendre de ça pour que ça devienne pragmatique et que dans un sens qu'on soit, comme tu disais, je trouve un peu christique, c'est-à-dire habité par quelque chose de christique. Qui va se manifester dans la générosité, dans le fait de pas vivre simplement la grâce à bon compte, mais de dire, ben voilà, quand même, il y a des manières de réparer mes fautes aussi, de réparer les gens que j'ai volés en les remboursant, même au-delà de ce que j'avais volé. Donc le salut, oui, entre dans cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Alors effectivement, fils d'Abraham, peut-être par le sang, qu'importe. En tout cas, fils d'Abraham, par cette parole qui le rejoint et qui le met en route, donc il est bien... Ou alors il est fils d'Abraham parce qu'effectivement, il y a cette promesse faite à Abraham en Genèse 12, hein, que toutes les, voilà, la multitude sera bénie à travers Abraham, ce qui est le cas donc, de cet homme aujourd'hui. Voilà, c'est un accomplissement de la promesse faite à Abraham que même Zachée soit... soit au bénéfice de ce salut, voilà.
Il était perdu,
oui. Chercher et sauver ce qui était perdu, donc il était perdu, oui. Oui, oui. Ben oui. Encore un perdu, ouais.
Oui. Oui, non, c'est étonnant tous ces textes. Parce qu'au fond, à chaque fois, c'est une relation unique, quand même, c'est pas... évidemment, on peut se dire qu'il y a peut-être eu d'autres Zachées, mais ce qui frappe, c'est quand même que Jésus sauve les gens un peu par leur nom. Il les sauve individuellement, il les sauve personnellement. On a très peu de récits purement narrativisés où on dit si quelquefois on a, il guérit une dizaine d'aveugles. Mais quand même, en général, le projecteur, c'est de montrer la relation. C'est quand même dans la relation que s'établit quelque chose, quoi. Et c'est là qu'il y a quelque chose de religieux.
Tu as raison, mais en même temps, le verset 10, là, il vient dire « c'est arrivé à Monsieur Zachée », mais en fait, c'est universel. C'est de l'universel, mais pas au sens où Jésus vient sauver l'humanité. Il vient pas sauver l'humanité, il vient sauver Zachée, il vient sauver Simon, il vient sauver machin, truc et bidule. Individuellement, mais dans le verset 10, c'est programmatique. C'est-à-dire que c'est universel au sens de chaque particulier. Sans oublier personne.
On termine avec...
les deux fils. En
fait. Voilà. Qu'on appelait naguère la parabole de l'enfant prodigue, de l'enfant perdu, la parabole des deux fils, des deux frères, que l'on connaît bien. Je ne sais pas s'il y a besoin de la relire, peut-être, un petit peu.
On la connaît tous par cœur ? Un peu, quand même.
Oui. On va peut-être relire la période la moins connue avec... le deuxième paragraphe, ils se mirent à festoyer, son fils aîné était au champ.
Le fils aîné, oui.
Allez-y.
Ils se mirent à festoyer, son fils aîné était au champ. Quand, à son retour, il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses.
Oui, des danses, oui. Oui, oui. Oui.
Appelant un des serviteurs, il demanda son fils. C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau d'un parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. Alors il se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier, mais il répliqua à son père : voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festonner avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec tes filles, tu as tué le veau gras pour lui. Alors le père lui dit, mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est en moi est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est vivant. Il était perdu, et il est retrouvé.
Et alors comme souvent dans l'évangile, en fait la fin n'est pas racontée parce que ça dit venez écrire la fin avec votre propre existence. Est-ce que vous acceptez, est-ce que le fils aîné va rentrer? C'est une question qui nous est posée à chacun. Est-ce qu'on accepte finalement ce type de justice, voilà, où la joie est dans cet accueil, cette guérison, cette réconciliation.
Je pense que, bon, j'évoquais tout à l'heure la parabole des ouvriers de la dernière heure, parce que c'est le même type de justice qui prévaut dans ce genre d'expérience. La réponse du père est quand même intéressante. Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Est-ce que nous, quand nous sommes tentés effectivement de faire valoir notre fidélité, est-ce que c'est la réponse que nous entendons du Seigneur finalement, que nous sommes toujours avec lui, qu'il est toujours avec nous et que tout ce qui est à lui est à nous? Parce que c'est une réponse grandiose en fait. C'est pas du tout une réponse de calcul ou de dire on va avoir finalement une paire de bras en plus, donc il faut bien quand même, il y a un retour sur investissement, donc on peut bien quand même faire quelques dépenses pour signifier que on n'est pas dans cette logique là on est dans une logique de l'excès, on est dans une logique un peu eschatologique d'ailleurs, c'est un peu un banquet qui conclut l'histoire. On n'est pas dans, je sais pas, on n'est pas dans des calculs familiaux pour savoir ce qu'il vaut mieux donner à l'un ou à l'autre. Moi, j'aime beaucoup la réponse du père. Elle est très frappante. Tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Puissions-nous entendre cette réponse-là, hein, qui place quand même, qui place le débat à un niveau et à une hauteur. Parce que si on commence à faire des comptes d'apothicaire, on s'en sort pas. Parce que forcément, c'est une situation injuste. Le type, il est parti faire la bringue pendant des années. Et on peut se mettre à la place de l'aîné, c'est évident. Alors, Jésus vise peut-être les pharisiens qui se prévalaient d'une fidélité à la Torah face à toute une population dont on ne sait pas grand-chose d'ailleurs, mais qui vivait très en dehors des observances et des prescriptions de la Torah. Donc c'est probablement ça qu'il a en tête. Mais de manière plus générale, notre conception de la justice, c'est vrai, elle est imparable. C'est-à-dire qu'on, moi, je me mets à la place du fils aîné, on a tous cette réaction-là. Mais quand nous avons cette réaction-là, voilà, puissions-nous entendre la réponse du Père. Tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à Dieu est à nous, d'une certaine manière. Nous sommes les héritiers, et nous sommes héritiers, comme aurait dit Paul, du culte, de la promesse, de la loi, nous sommes héritiers du monde de Dieu.
Mais ça, c'est vrai que le fils aîné, il n'a pas noté ça, finalement. Le fils cadet, il avait noté ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout nous était donné. Donc, il vit finalement dans une sorte de rancune de ne pas avoir reçu ce qui était déjà à lui, finalement. Il a pas du tout compris comment fonctionnait le Père. Il est dans une observance, une servilité, une soumission, dans une comptabilité, finalement, qui est contraire de la grâce. C'est-à-dire, voilà, il dit, ben, j'ai fait ceci, donc je méritais d'avoir un chevreau, tu ne me l'as pas donné. Donc là encore, on est dans un type de justice qui est celle d'un comptable. Et donc l'idée, voilà, que celui qui est coupable, ben, il est en dette, et donc il se retrouve dehors. Mais c'est pas du tout la logique, voilà, la grâce, c'est pas du tout dans la logique de la comptabilité. D'ailleurs, Dieu, ce qu'il a à partager et à donner, c'est infini, c'est la vie totale pour chacun. Donc, à la limite, ce qu'il a donné au fils cadet, ça n'en a pas privé le fils aîné. Parce que la vie, quand la vie nous est donnée, la capacité, la dignité nous est donnée, notre dignité ne retire pas de la dignité à celui qui est à côté. Donc c'est ça qui le choque finalement, mais il n'a pas compris que ça n'aliénait pas sa dignité qu'on en donne à l'autre. Mais ça lui est insupportable parce qu'il dit, mais non, l'autre ne mérite pas finalement la vie et la dignité et le bonheur et d'être reconnu comme fils. C'est ça qui est amusant, c'est qu'à mon avis, c'est l'avoir dont il est question ici, c'est pas le partage de l'héritage, parce que là, le partage de l'héritage, c'est celui qu'on a le plus besoin qui devrait en avoir le plus. Ou alors on partage à part égale, au moins. Mais là, c'est pas ça dont il est question, si vous voulez, bien sûr. La question ici, c'est que la grâce, Dieu donne tout ce qui est à Dieu, comme tu disais, Jérôme, tout ce qui est à Dieu est à nous, et que donc on peut s'en saisir, dire voilà, la dignité, la grâce, le monde entier, l'évangile, tout nous est donné, et donc on n'a pas à le mériter, à le gagner, à l'acheter comme ça, avec la servilité. Et donc on sait toute une autre logique. Mais le fils cadet, lui aussi, il était un peu dans cette logique en disant « traite-moi comme un ouvrier ». Il avait percuté au début qu'il était dans la grâce, qu'il était héritier, donc c'était à lui, il n'avait pas gagné. Il n'y a rien de plus dans la grâce que l'héritage. On n'a absolument pas travaillé, ça nous tombe dessus, c'est dégueulasse, en un sens, c'est contraire à la comptabilité normale, parce que c'est de la grâce pure, l'héritage. Donc il avait bien compris ça au début, mais finalement il s'en sent indigne. Et dans un sens, il comprend effectivement qu'il en est effectivement indigne du moment où il galvaude ce don extraordinaire, il en fait n'importe quoi. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, le verset 14, quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. C'est pas logique. On voit bien, si vous voulez, que c'est du domaine du spirituel, oui. Parce que c'est pas possible. Le fait que lui ait tout dépensé, le pays tout entier se trouve dans la famine. On voit pas le rapport. La logique montre bien que il faut le lire, comme tu disais, on est le monde entier. Tout d'un coup, on a tout dépensé, on se rend compte que de vivre n'importe comment, notre vie perd son sens, s'écoule, et y a une grande famine qui se fait sentir. C'est une famine spirituelle, une famine existentielle, une famine de dignité, de je sais pas quoi, moi, de sens, de... Oui. Et alors du coup, sa vie tout entière... Hein. Peut-être toutes les dimensions de son être sont en détresse. Et il est réduit à l'état de cochon, quoi. Avec même pas la nourriture des cochons. Alors du coup, il rentre en lui-même et il a cette démarche, effectivement, qui le fait régresser. Il régresse au niveau du cochon, mais aussi dans sa théologie, finalement, dans sa compréhension de Dieu. Il dit, mais moi-même, je ne mérite pas. Il en revient au stade du fils aîné, finalement.
Et ça pourrait d'ailleurs être une régression sociale, parce que l'idée, à l'âge d'homme, quand on est en plein cœur de la vie active, l'idée de retourner vivre chez ses parents, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, comme hier, ce soit très valorisant. En général, c'est quelque chose d'ailleurs qui est toujours, qui est toujours compliqué. Donc il pourrait y avoir cette dimension de régression sociale. Et le père place aussitôt les choses autrement. Et c'est là qu'il y a ce fameux passage que j'évoquais tout à l'heure. Il alla vers son père, et comme il était encore loin, son père l'aperçut. Il courut se jeter à son cou. C'est bien, c'est le père. Le père qui court. Et qui le couvre de baisers, etc. Donc ça veut dire qu'avant même qu'il s'agenouille devant le Père, comme dans le tableau de Rembrandt, avant même qu'il demande pardon, le pardon déjà lui est acquis d'une certaine manière. Alors le pardon n'est pas dit, il faut quand même que l'autre demande. Mais donc l'amour du Père précède la démarche pénitentielle.
Oui, oui.
Sinon la démarche pénitentielle serait sèche et presque... On serait dans un dieu païen, on serait devant Jupiter, on va plier le genou devant Jupiter pour qu'il nous fasse grâce. Non, ici c'est autre chose, c'est comme si la statue de Jupiter courait à nous. Enfin, il y a quelque chose là de... On comprend que les peintres aient été fascinés par cette scène. Parce que ça en dit long quand même sur le pardon. Quand nous voulons que des gens nous demandent pardon, quel signe donnons-nous? Effectivement, si nous attendons comme Jupiter... statufié, on risque de... Voilà, et c'est comme ça que la haine naît entre les gens.
Oui, et puis bon, je veux dire, à ce moment-là, le criminel qui nous a blessés, qui devrait nous demander pardon, on reste prisonnier de son manque d'évolution, c'est-à-dire que la victime, si elle ne peut pas se décharger de sa haine parce que le coupable ne lui demande pas pardon... Elle continue à être sous la coupe et sous la dépendance de la méchanceté de l'autre. Donc c'est vraiment tragique et dramatique pour la victime. faut que la vie, voilà, faut pas attendre le pardon de l'autre pour se libérer de cette haine. Voilà.
Quand on dit je pardonne mais j'oublie pas, c'est un peu ça. Quand même. C'est une espèce, c'est ce pardon un peu sec qui n'est pas un pardon. C'est un pardon de bouche. C'est un pardon de bouche, mais qui n'est pas un pardon du cœur.
Il faut libérer le cœur. Bon, alors ensuite, que Dieu, effectivement, n'attende pas notre repentance pour pardonner. Sinon, l'amour de Dieu serait limité à notre capacité à demander pardon. Ça ferait quand même un amour un peu rikiki, si vous voulez, un peu. Ce serait un peu gênant. Non, non, donc effectivement, l'amour est plus grand que précède la repentance. Mais cela dit, s'il était resté chez les cochons, ben, il serait resté à mourir de faim chez les cochons. Sauf que cette parabole, elle vient suivre la parabole de la brebis perdue, où, qui dit l'inverse dans un sens. La brebis, elle est perdue, il n'y a pas marqué que la brebis, elle se sent perdue, elle demande pardon de s'être écartée, quoi que ce soit. Il y a marqué que le berger, unilatéralement, recherche la brebis perdue. Il la recherche jusqu'à ce qu'il la trouve, et il n'y a pas à marquer s'il la retrouve, si elle n'est pas assez stupide pour se rester cachée jusqu'au siècle des siècles. Non, il y a marqué quand il la retrouve, il la met sur ses épaules et il invite tout le monde pour faire la fête. Donc pour Jésus, dans la parabole de la brebis perdue, il n'y a aucun doute, Dieu retrouve toujours ses enfants perdus. Mais quand même, dans la parabole des deux fils, là, il y a l'idée que une démarche de notre part est quand même indispensable pour arriver à vivre de ce pardon, évidemment. Cela dit, à mon avis, Dieu ne cessera jamais d'aller titiller, par exemple, le fils aîné. S'il ne rentre pas le premier coup, il ne va pas lâcher le morceau. Mmh. Le père... Mais à la limite, effectivement, il y a les deux exemples. Il y a l'exemple du fils cadet qui a un début de repentance et le père abonde dans cette repentance, et le fils aîné, il n'y a pas de début de repentance. Il fait le grognon à l'extérieur, il est dans le reproche contre Dieu, et ben Dieu sort et va jusqu'au fils aîné pour l'amener à la repentance. Et il ne cessera pas de le faire, à mon avis.
On peut faire une lecture un peu romantique aussi, je pense que ce serait excessif, mais c'est l'idée que d'un côté, bah, y a celui qui est un peu trop timoré pour prendre beaucoup de risques et qui reste à la ferme familiale. Et puis, il y a celui qui, voilà, qui veut goûter à tout, qui veut essayer. On connaît ça aujourd'hui, qui veut essayer plein de religions, faire des expériences, aller à Katmandou, fumer des fleurs, je ne sais pas quoi. Et puis après, il revient, parce que effectivement, la brebis perdue, peut-être qu'elle a choisi d'être perdue. C'est peut-être comme la chef de Monsieur Seguin, qui veut aller gambader, mais qui n'a pas dit qu'elle reviendrait jamais. Mais bon, elle veut brûler sa vie. Elle veut, voilà. Et puis à un moment, évidemment, c'est et donc c'est très touchant parce que c'est très humain au fond. C'est deux types humains. Moi, je suis un peu plus comme le frère aîné, évidemment, mais je peux comprendre les gens qui voilà, et puis il faut pas les juger. Les gens qui partent comme ça, qui veulent vivre leur vie parce qu'ils ont un rapport au temps et à l'espace qui est différent. Et puis, bah, un jour, ils reviennent au bercail et c'est comme ça. Et il vaut mieux s'en réjouir plutôt que de dire oh là là. Voilà.
Donc on se retrouve le 22 mars en fait. À l'oratoire avec ben voilà, là on entre dans la communion, voilà, et ce sera pour accompagner déjà la préparation de Pâques.
Tout à fait. Bonne soirée.
Merci à tous. Bonne soirée, bon retour.